RMC. Lahaye, l'amour et vous, Brigitte Lahaye.
Nous continuons à évoquer le bien-être ou le mal-être sur le lieu de travail avec Loïc Roche, spécialiste justement dans le management. Et vous pouvez bien sûr réagir au 32-16. Ensuite, on recevra Jennifer Ayash, la chanteuse du groupe Superbus, qui sera avec nous et qui nous dira justement si... En tout cas, ce qui est sûr, à mon avis, c'est que c'est une femme libre. Enfin, on en saura plus dans quelques instants. Et bien sûr, Clémence aura testé pour nous les boules de geisha à mort. Alors, je crois que c'est bien aussi que Christophe prenne la parole et je l'en remercie. Bonjour Christophe.
Bonjour Brigitte, bonjour Loïc.
Parce que c'est vrai que c'est une question que se posent beaucoup d'hommes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement à une femme
hein? En fait, c'est pas tout à fait ma question. Ma question, c'est que je dirige une brasserie, j'emploie des serveuses et je fais très très attention. Hein. Il est bien clair que dans mes propos, il est hors de question de harceler qui que ce soit, homme ou femme d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir aussi de harcèlement vis-à-vis d'un homme.
Absolument.
Et j'ai réglé le problème. J'ai travaillé aux États-Unis. Jamais me retrouver seul avec un de mes employés. On gagne un temps fou. Déjà, il y a un témoin, parce que l'interprétation entre ce que je dis et ce que la personne en face entend ou ressent va être subjective. L'avantage, c'est d'avoir une troisième personne et ça nous permet déjà de neutraliser les choses. Donc, jamais me retrouver seul avec un de mes employés. Et si j'ai une remarque à faire, je la fais devant tout le monde. Donc, c'est déjà une bonne chose, je dirais, un bon conseil pour les femmes, à partir du moment où elles se sentent agressées, de ne plus jamais se retrouver dans des situations où elles sont face à leurs employeurs ou à un de leurs... travailleurs avec eux, de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de soucis. Alors, je vois bien que ce n'est pas simple, mais c'est déjà, ça élimine 90% des problèmes.
Oui, effectivement, ce n'est pas simple. Et aux États-Unis, vous avez raison, puisque ça va même, effectivement, où on encourage les hommes à ne jamais prendre l'ascenseur, surtout avec une femme, s'ils pouvaient se retrouver simplement à deux dans ce même ascenseur. Lorsqu'on reçoit une personne dans un bureau, donc évidemment, on ne travaille pas forcément toujours dans des lieux, mais on peut travailler dans un bureau, on laisse toujours la porte ouverte, etc. Simplement, ce que vous dites, c'est très juste du côté des hommes, où on peut avoir cette ligne de conduite qui, effectivement, fait que, du coup, on aura un respect absolu et par précaution, et c'est pourquoi pas, c'est très bien. Mais lorsque les femmes font ça, et ce que dans la dernière affaire, c'est ce qu'elles nous expliquent, que souvent elles se disent entre elles, mais il faut surtout pas prendre l'ascenseur, etc. Mais là, elles sont davantage finalement dans quelque chose d'une sorte de victime, de fuite, d'interdiction finalement à vivre. Et effectivement, ce type de comportement, il faut vraiment que ça vienne des hommes. Vous avez raison. Hein.
Mais le monde merveilleux de Walt Disney, ça n'existe pas. Et je suis un homme. Le comportement des hommes, et on oublie aussi que certaines femmes peuvent être agressives sexuellement vis-à-vis des hommes. Hein, ça marche dans les deux sens.
Oui,
on n'en
oui,
parle
on,
pas non plus.
On a déjà eu des témoignages en ce sens, hein,
voilà,
Christophe.
Voilà. On peut pas fonctionner. Enfin, ça serait dans un monde idéal que tout le monde se respecte. Moi, j'adorerais ça. Mais malheureusement, ça marche pas. Donc, je pense que la deuxième solution, c'est comme à l'école, de remettre des règles. C'est malheureux, c'est triste. On a essayé plein de choses, mais ça fonctionne pas. Et je pense que si déjà le fait de ne pas se retrouver tout seul, c'est déjà une bonne chose. Et le fait de jamais interpréter. Parce que je vous donne un exemple concret. Un jour, j'ai une de mes serveuses qui est arrivée et à qui j'ai dit « Votre parfum a des effluves extraordinaires et vous avez une jolie jupe. » Et elle a pris ça comme une agression. Vous voyez, la perception des choses est très spéciale quand même.
Mais j'ai l'impression quand même que les femmes aujourd'hui se sentent vite agressées. Enfin,
J'en suis persuadé, mais en même temps, Brigitte, et vous le savez bien mieux que moi, elles sont agressées. Malheureusement, vous et moi, une agression où c'était bien plus, entre guillemets, agréable il y a une vingtaine d'années.
Non, Christophe,
et aujourd'hui, ça devient tendu.
Non, ça je ne peux pas le laisser dire, Christophe. Moi, je me suis fait agresser, harceler sexuellement. C'est évident. Je veux dire, ça a toujours ça a existé. On le subissait peut-être plus. Ça nous paraissait peut-être presque normal et on apprenait donc à se défendre, je ne sais pas, mais ça a existé, je veux dire, c'est pas nouveau, hein. Je crois que ça, il faut pas se raconter d'histoire. C'est bien qu'on en parle aujourd'hui parce qu'on n'en parlait pas il y a 40 ans, mais ça a existé et ça a existé certainement plus que ça n'existe aujourd'hui, à mon avis. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Loïc Roche.
Oui, on est quand même dans un monde, effectivement, mais vous avez raison, c'est pas Walt Disney, hein. Mais dans un monde où, effectivement, le compliment honnête, sincère, spontané, exactement comme on peut se faire reprocher parfois, ça arrive rarement heureusement parce qu'on laisse passer la dame devant soi à la sortie du RER ou du train et
ça
que celle-ci peut retrouver effectivement extrêmement désobligeant
déplacé, de dire mais vous regardez voilà. Mes fesses et moi je suis très gentleman, je fais très attention, la gente féminine je la respecte à mort,
c'est un autre
et
extrême.
Le énorme problème c'est que aujourd'hui la galanterie devient déplacée et c'est très dur en tant qu'homme de se placer vis-à-vis de ça.
Mais c'est dommage en plus, je trouve. Enfin, c'est en ça que je dis que attention, parlons des choses avec peut-être plus de lucidité sur ce que le fait qu'on est des hommes et des femmes. C'est d'ailleurs comme ça que vous avez commencé l'émission, Loïc Roche. C'est-à-dire qu'on est des hommes et des femmes, donc forcément avec des ressentis différents, des comportements différents, et peut-être qu'il faut aussi apprendre à mieux comprendre quand un homme nous fait un compliment, il nous harcèle pas, enfin je veux dire
Oui, mais il y a effectivement le travail des deux côtés, c'est à la fois mieux comprendre, puisque nous dit votre auditeur, je pense qu'il a parfaitement raison, c'est aussi ce qu'on dit depuis le début de cette émission, c'est qu'il faut réinstruire véritablement des règles. C'est un petit peu dommage, mais si on met pas les règles, c'est aussi la porte ouverte en bout de chaîne à quelque chose quand même qui ressemble fort à de la barbarie.
Malheureusement, en tant qu'employeur, je suis obligé de valider ces propos. Si on n'a pas de règles, le cadre légal est laissé ouvert et au ressenti de la personne, autant de l'homme qui dit être agressé ou agressif, et autant de la femme qui dit être agressée ou être agressif. C'est très subjectif, c'est très dans la nuance, et malheureusement, on est obligé de poser un peu plus les choses.
Oui, c'est obligatoirement de toute façon très subjectif, puisqu'on est dans des sphères de l'émotion, hein. C'est pas très concret tout ça, hein. Donc forcément très subjectif. Merci beaucoup Christophe, en tout cas de votre
Merci
témoignage.
Merci Brigitte et Loïc, au plaisir.
Merci à vous. Michael est avec nous. Bonjour Michael.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Loïc. Je vais immédiatement rebondir et essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Je suis conseiller en stratégie et expert en coaching, justement des problèmes de harcèlement, tout ce qui est problèmes relationnels. Et je vais essayer de répondre à quelques questions que vous avez posées, le vadémécum, sur quoi on peut se baser dans le harcèlement. Mais la première chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est en effet cet aspect de la subjectivité de la chose. Non, tout n'est pas subjectif. Pourquoi ? Parce que les employeurs, en fait, ce qui rend complexe le harcèlement, c'est trois choses. Petit 1, vous avez parlé de repositionnement sur lequel il faut réfléchir. Moi, je dirais le positionnement d'ores et déjà. Lorsqu'on arrive dans une entreprise, il faut que les personnes sachent observer. En effet, vous avez raison, Eloïc, je crois que vous l'avez dit ensemble, il faut comprendre le comportement des autres. Il faut comprendre le code, le langage des autres. Et ensuite, savoir dans quelle mesure on va redéfinir sa sphère d'intimité, sa sphère professionnelle, afin de voir quand il y a des limites, évidemment, qui sont dépassées. La deuxième chose, c'est l'organisation. Vous dites, et la personne qui était là avant représente une entreprise. Il y a bien des choses, vous avez raison Brigitte, qui ont évolué depuis pas mal de temps. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises aujourd'hui sont censées, dans des organisations, mettre en place des indicateurs et des signaux liés aux risques psychosociaux. Le harcèlement, l'agressivité, ce sont des signes qui démarrent à un instant donné, qui s'amplifient et qui se terminent par des actes. Il est évident que si on se base uniquement sur l'aspect subjectif et que personne ne fait le relevé de ces signaux, il est évident, vous allez vous opposer à des gens qui vont avoir une version et d'autres qui vont se défendre en disant « bah oui, mais vous êtes comporté comme ci, etc. » Enfin, le troisième élément qui rend encore la chose complexe, c'est que quand ces bruits-là arrivent au niveau de la direction générale, et je vais vous donner des exemples extrêmement factuels, vous avez parfois des directeurs généraux ou des présidents qui disent « ah ben non, je ne peux pas accepter de prendre des mesures contre cette personne, c'est celui qui fait le meilleur chiffre d'affaires. » Voilà. Ce cadre étant posé, maintenant, comment s'armer ? Petit 1, il faut se positionner en observant son environnement et, je répète, définir sa sphère d'intimité et ses propres limites dans la relation à l'autre. Deuxième élément, lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose de normal, que ces limites sont franchies, que le comportement vous met dans une situation de souffrance, Brigitte, vous avez assez parlé du plaisir et de la souffrance, on est soit dans le plaisir, soit dans la souffrance, on n'est pas dans les deux. Eh bien, à ce moment-là, il faut intégrer la culture de l'écrit. Il faut écrire. Si on n'écrit pas et qu'on acquiesce, ça donne du pouvoir à l'autre. Et la relation est en train de se déséquilibrer.
Oui, c'est ce que je disais quand il faut poser ses limites tout de suite, bien sûr.
C'est vrai, vous avez raison, mais tous les environnements ne sont pas les mêmes, Brigitte.
Bien sûr,
ce que je veux dire.
Mais bien sûr, et puis on est des êtres humains avec nos fragilités, nos projections. Enfin, c'est pour ça que c'est très complexe. Mais j'entends bien ce que vous dites, Michael.
Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai vu s'il y avait un vademécum. Petit 1, il faut écrire. Dès la première constatation, il faut écrire le fait, le décrire. Parce que ça va servir, évidemment, lorsque on entendra une procédure au prud'homme ou ailleurs. Deuxième élément, les SMS. Vous avez posé une question tout à l'heure, j'ai pris l'émission en cours, mais je me suis arrêté pour vous donner des éléments parce que je vois bien que le contexte n'évolue pas, les risques psychosociaux ne sont pas considérés, personne n'est là pour relever ces signaux, et donc, évidemment, c'est l'anarchie. Deuxièmement, les SMS. Lorsque quelque chose arrive, vous recevez des SMS, il y a deux cas, vous recevez des SMS bizarres, vous les stockez, vous les imprimez, vous les enregistrez. Deuxièmement, au même moment, vous-même, vous pouvez faire des mails ou des SMS en expliquant le trouble provoqué par ces SMS. On est là vraiment dans la culture de l'écrit. Ainsi, vous allez décrire tout un processus qui va aider à la prise de décision des juges et qui va aider aussi l'avocat à se sortir de l'aspect subjectif de l'aspect
bien sûr.
De la chose. Voilà, je résume.
Mais bien sûr, mais je pense qu'encore une fois, Michael, moi je l'entends sans arrêt sur d'autres sujets, que ce soit pour la garde d'enfants, que ce soit pour des divorces. On ne peut pas se présenter devant un juge sans preuve, et c'est pour ça qu'il faut en effet garder des traces dès qu'on peut pour avoir quelque chose à donner à l'avocat, bien sûr.
Tout à fait. Et puis en fait, dernière recommandation, c'est l'aspect émotionnel, l'intelligence émotionnelle, mais c'est vrai que quand on n'est pas préparé à tout cela, on n'a pas obligatoirement les bonnes émotions, c'est qu'on se met à raisonner avec des tripes, et l'agression peut attirer en fait une action agressive de la part de la personne qui est victime, elle a l'impression qu'on n'entend pas, elle s'exclut d'elle-même, et si ces signaux aujourd'hui ne sont pas répertoriés, identifiés dans les entreprises, et j'espère que les personnes qui écoutent et qui sont des employeurs, j'espère qu'ils prendront en compte que les risques psychosociaux sont aussi importants que les risques marchés, les risques de contrepartie, les risques de liquidité, etc. La gestion de risque aujourd'hui doit être globale dans l'entreprise si on veut qu'une organisation soit performante et compétitive, parce que les gens seront heureux. Voilà.
Eh oui. Plus les gens sont heureux dans l'entreprise, plus l'entreprise fonctionne bien, je crois, Loïc Roche. Hein, ça fait partie de vos formules.
C'est le bon sens, mais ça va pas forcément de soi. D'où l'importance de faire un pas de côté, de travailler sur le bien-être des hommes et des femmes. Ce qui veut pas dire vivre dans du coton, mais simplement, effectivement, ça commence par le respect. Ça commence par ce que a dit votre auditeur, qui est effectivement tout à fait juste. Et parce qu'il y a effectivement ce travail sur le bien-être, alors de surcroît, on pourra atteindre une performance durable et responsable des entreprises.
Merci en tout cas, Michael, de ses conseils. Et puis, justement, on a les résultats du vote sur le compte Twitter. Est-ce que vous êtes heureux sur votre lieu de travail? Loïc Roche, plutôt une bonne nouvelle. Ils sont 40% à répondre non. Donc 60% à répondre oui.
Il y a encore du progrès, mais c'est déjà bien que la majorité soit plutôt du bon côté.
Bah oui, quand même, c'est quand même plutôt bien. Et vous êtes heureux, vous, Loïc, sur votre lieu de travail?
Oui, mais parce qu'on a la chance, encore une fois, d'exercer un travail vivant, c'est-à-dire qu'on donne de soi au monde commun, comme disait Hannah Arendt. On a la chance également d'avoir des signes de reconnaissance de notre employeur, car nous avons tous un patron. Et en bout de chaîne, ça peut être simplement les clients qui sont nos propres patrons. Et puis aussi, on a toujours l'espoir d'évoluer, l'espoir de faire un petit peu les choses différemment. Mais malheureusement, c'est pas forcément le lot de tout le monde.
Bien sûr, mais on peut toujours essayer de trouver comment on peut améliorer, vous l'avez dit tout à l'heure, comment on peut améliorer le sens qu'on met dans son travail, comment on peut... Bon. Comment résister à la tentation? C'est notre petit conseil du jour. Vous savez que tous les jours, je vous explique comment vous pouvez rester fidèle, coûte que coûte. Alors, il y a un élément à prendre en compte. Il faut vérifier si vous êtes vraiment engagé dans la relation dans laquelle vous êtes. Parce que il y a de nombreuses infidélités qui sont dues à la peur de s'engager, comme si, en quelque sorte, on gardait une roue de secours. Donc, on est avec quelqu'un, mais on a quelques petits partenaires à droite, à gauche, ou voire parfois qu'un seul. Hein. Et ça prouve donc que vous n'êtes pas vraiment dans ce désir de former une relation solide, stable avec la personne avec qui vous êtes. Donc réfléchissez si vous êtes vraiment engagé avec la personne avec qui vous êtes. Et si vous n'êtes pas vraiment engagé alors que vous pensez l'être, ça prouve peut-être que vous n'êtes pas suffisamment adulte sur le plan affectif. Donc il faut apprendre à grandir, tout simplement. C'est Clémence qui a testé pour nous ces boules de geisha. Bonjour Clémence.
Bonjour.
Alors c'est des boules de geisha, assez classiques, hein, a priori.
Oui, elles sont plutôt classiques, elles sont même assez petites. C'était la première fois du coup que je testais. C'est vrai que pour le coup, c'est assez, je trouve que le principe est assez sympa. En plus, effectivement, ça muscle bien, mais c'est pas gênant, ce qui fait que du coup, c'est vrai que c'est assez, c'est conseillé de les utiliser, de les garder un petit peu. pour sa muscle vraiment. Et au début, c'est vrai que j'avais peur que ce soit un petit peu gênant. Et puis finalement, pas du tout. Donc en plus, elles sont assez sympas de visuel. Donc plutôt bonne expérience, on va dire.
Oui, c'est pas gênant. C'est fait justement pour que vous puissiez sentir les contractions du vagin plus facilement que quand il n'y a pas d'objet, si je puis dire. Vous me donnez quelle note alors, Clémence?
Franchement, je donnerais un bon 8.
Un bon 8 sur 10. Bon, ça, c'était un travail plutôt sympathique. Hein.
Voilà, c'est ça.
Oui, un 8 sur 10 pour ces boules de geisha à mort bleu-rose que vous avez testées. Si vous voulez les procurer, elles sont bien sûr sur la boutique de l'émission. Vous allez sur rmc.fr. Merci beaucoup, Clémence.
Merci à vous. Bonne journée.
Alors, notre Wikisex du jour, voilà la question, Loïc Roche. Comment on détecte un burn-out?
Alors, il y a nécessairement pas mal de signes. Des signes de fatigue, des signes d'épuisement, l'impression de ne plus être reconnu dans son travail. Et plus généralement, cette image que les personnes nous racontent, c'est-à-dire cette impression d'être passée sous la vague. Les personnes ne dominent plus ce qu'elles doivent faire, elles sont dominées, elles n'en voient plus le bout, elles n'en voient plus le sens. Et puis, il y a une forme, à un moment donné, de désintérêt. Et très souvent, ça arrive parce qu'il y a une sorte de surinvestissement par rapport au travail et on va se prendre, comme ça, une remarque qui, en temps normal, serait passée, on va dire, par pertes et profits, si je puis m'exprimer ainsi, et qui, là, va vous toucher au cœur et va complètement vous anéantir.
Vous voulez dire que, finalement, le burn-out arrive parfois parce qu'on s'est trop investi
Il y a un surinvestissement. Et ce qu'on observe également, c'est une forme de déséquilibre entre la vie personnelle qui a perdu peut-être un petit peu de sa musculature. Donc il y a le surinvestissement presque double par rapport au travail, parce que déjà le travail il faut le faire, en plus on s'investit encore davantage, et donc si à un moment donné on est touché sur cette partie-là, il n'y a plus rien qui vous tient, il n'y a plus cette colonne vertébrale, et donc effectivement il y a une sorte, effectivement, d'un seul coup c'est comme la fatigue vous envahissait et tout va vous paraître, on va dire, monstrueux à essayer de réaliser. Donc là il y a une forme d'abattement
Donc tout s'écroule d'un seul coup,
et donc tout s'écroule effectivement d'un seul coup, la traduction du burn-out étant effectivement cette fatigue qui, d'un seul coup, on va dire, vous submerge complètement.
Évidemment, toutes les réponses à ces questions, vous les retrouvez dans le Wikisex. Il suffit pour ça d'aller sur rmc.fr. Bon, écoutez, on a essayé d'avancer un petit peu. Hein, le bien-être au travail, finalement, peut-être qu'il faudrait, Loïc Roche, que vous nous fassiez un petit topo hein, sur tout ce qu'il faut faire pour être heureux sur le lieu de travail. Et comme ça, la prochaine fois, on n'aura pas 60%, mais 90% de gens qui répondront oui. Et ce sera grâce à vous. Ce serait une belle mission.
Je pense pas que
ce sera
grâce à moi. Mais en revanche, c'est un bel objectif que d'essayer d'améliorer, on va dire, si ce n'est le bonheur, en tout cas, les employeurs ont le devoir de mettre en place les conditions pour les hommes et les femmes d'être heureux au travail, puisqu'après, il appartient à chacun de réussir sa vie.
En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes directeur de l'école de management de Grenoble. Eh bien, on se retrouve dans un court instant avec Jennifer Ayash, la chanteuse du groupe Superbus, qui certainement, elle aussi, est heureuse sur son lieu de travail. À tout de suite.
RMC, La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye et Jennifer Ayash.
Et aujourd'hui, c'est Jennifer Ayash donc qui est avec nous. Vous êtes chanteuse du groupe Superbus. C'est votre sixième album qui sort avec ce titre principal Strong and Beautiful. On en écoutera un petit extrait dans un instant. Alors Jennifer, vous avez l'air toute intimidée.
Intimidée, je sais pas, mais non, ça va.
En tout cas, j'ai écouté votre album. Je trouve qu'il y a une sorte de, j'allais dire, de fraîcheur. Il y a quelque chose de très beau qui sort de votre voix.
Peut-être, je ne suis pas encore muée.
Et en même temps, vous avez la voix de quelqu'un qui pourrait chanter des choses très romantiques.
Mais parce que c'est un vrai mélange de ça, en fait, ce qu'on fait. C'est quelque chose de très fort et très doux en même temps, et très fleur bleue, et en même temps, avec de la niaque quand même. Donc, et c'est ce que je suis, je pense.
C'est ça, il y a toutes ces facettes qui finalement font quelque chose d'assez. Que moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. Alors, beaucoup de titres anglais, et en même temps, ce mélange. C'est pourquoi?
Parce que c'est la musique anglo-saxonne que j'écoute depuis petite, et puis que voilà, c'est notre marque de fabrique depuis le premier album. J'ai envie de sortir des mélodies en anglais et puis de faire sonner les mots, des mots anglais, des mots français. Ça sort comme ça vient, en fait. Vraiment.
Ça sort comme ça vient.
Ouais.
On écoute un extrait de Strong and Beautiful.
fait l'histoire, je rêve de voyage. Je compte encore sur mes doigts, c'est plus de mon âge. Le temps passe, je me vois coincé dans ma cage. Et si tu m'appelles, si tu m'appelles.
C'est Jennifer Ayage qui est avec moi et qu'on vient d'entendre dans le titre phare de cet album. Alors le succès, bon, ça va, il est déjà bien là, hein, Jennifer. Donc.
Ça va, c'est monté petit à petit avec ce groupe, mais c'est bien, ouais.
Oui. Alors est-ce que ça donne, enfin ça change l'image qu'on a de soi, le succès?
Ouais, je pense. Enfin, ça change l'image que les autres ont de nous aussi beaucoup.
Ça,
mais
ça c'est vrai, mais c'est.
Mais donc du coup, forcément, par réflexion, ça.
Par ricochet, ça.
Voilà. Ça change aussi comme on se sent des fois, mais ça va. Enfin, nous, on le vit plutôt bien. On est un groupe de pop rock, on est sur la route. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est plus familial, quoi. On va dire que les vrais succès qui sont très exposés.
Oui, enfin, en même temps, vous êtes la chanteuse du groupe, vous êtes mise en avant.
Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais.
C'est pas tout à fait la même chose que celui qui
non,
est batteur.
Non, c'est
qui,
sûr, mais je m'intègre. Moi, je me vois comme. Enfin, je suis à part entière, je suis dans le groupe, quoi. Je me sens dans le groupe. Voilà.
Alors, vous êtes la fille de Chantal Lobby. C'est facile d'être la fille de quelqu'un de connu.
Je pense
vous l'avez vécu comment?
Il y a des avantages, des inconvénients. Je pense qu'à peu près tous les fils d'eux et filles d'eux vous diront la même chose, c'est qu'il y a des choses très bien parce qu'on apprend vite, parce qu'on est déjà dedans, donc on sait, on connaît ce métier, quoi. Maintenant, les inconvénients, c'est que voilà, il faut faire ses preuves beaucoup plus que les autres. Il faut travailler. J'ai l'impression beaucoup plus que les autres. Et voilà. Mais moi, je suis tellement fière de ma mère que c'est que des avantages, j'imagine.
Et je suppose qu'elle est fière de vous aussi.
Ouais, ben voilà, on se supporte, on se soutient. On sait que c'est pas le même métier non plus. Elle est voilà, elle fait pas de musique, mais elle sait, elle connaît les dangers de ce milieu aussi.
C'est quoi alors? Qu'est-ce qu'elle vous a mis en garde contre quoi?
Ah bah c'est voilà, faut être méfiant, il y a des gens qui peuvent être mal intentionnés, faut avoir la tête sur les épaules aussi, c'est un métier où faut être fort psychologiquement.
Alors elle aussi elle a commencé en groupe hein, en quelque sorte,
ouais.
Pour après devenir plus indépendante. C'est
oui, c'est pour moi le Nul, c'était un groupe de rock. Donc j'ai pas l'impression de
Les Nuls, oui, enfin en tout cas c'était un groupe, si on peut dire, qui mettait un coup de pied dans la fourmilière.
Ouais.
Hein. C'est dans ce sens que vous voulez dire que c'est un
ça.
Groupe de rock.
Hein. Pour moi, c'était en marche, quoi. Donc ça dérangeait, c'était de l'humour qui dérangeait, mais en même temps qui plaisait tellement, qui était interdit. Donc c'est voilà.
Alors qu'est-ce que vous avez envie de justement de bousculer?
Moi, c'est ma façon de faire de la musique et de voir. De voir la vie, les relations humaines et tout ça. Moi, c'est ça que j'ai envie de bousculer, ou en tout cas j'ai envie de sentir qu'on est plein de gens dans la même situation, d'avoir envie de faire les choses bien, d'être des gens bien, d'être voilà. Donc c'est comme ça que je fais de la musique, moi, avec une attitude positive pour que les gens se sentent bien.
Vous avez enfin vous êtes jeune, vous êtes la nouvelle génération, vous avez envie que le monde change, c'est aussi ça, être artiste,
Je pense que c'est ça. Enfin, on apporte une toute petite pierre à l'édifice en faisant des choses qui peuvent faire passer le temps aux gens voilà, faire passer le temps agréablement aux gens. Donc, c'est vrai que le monde n'est pas hyper joli depuis quelques années maintenant, quelques décennies même, mais ça s'empire. Donc, si la musique ou le cinéma ou n'importe quel art peut aider.
Et les artistes, souvent d'ailleurs, ont une vision assez juste du futur.
Assez triste, peut-être même.
Non, je pense qu'il y a quelque chose de visionnaire chez l'artiste.
Oui, bah oui, parce qu'on est souvent obligé de penser en avance, quoi. Souvent obligé de penser à ce qui va plaire, à ce qui va se passer.
Mais peut-être parce que vous êtes moins formaté, vous êtes en tant qu'artiste, souvent on ose penser autrement.
Oui.
Non,
moi,
parce que
j'ai
écouté votre album, vous dites des choses qui sont pas forcément dans l'air du temps, quoi.
Non, Mais voilà, parce que c'est ma manière de penser à moi, que moi j'ai envie de me créer une vie qui est hors norme, des relations hors normes. Enfin, en tout cas, moi, c'est le but de mon chemin de vie, quoi.
Vous vous sentez, j'imagine. Alors, ça m'a fait sourire parce que vous voulez rien dire de votre vie privée, vous voulez rien dire.
Non, mais si, je veux bien dire. Enfin, je le dis dans mes albums, je le dis dans mes chansons un peu.
Mais vous vous sentez vraiment une femme libre, il me semble. Hein.
Oui, j'essaye en tout cas d'être.
Alors, c'est quoi une femme libre, Juliette Reyes?
C'est une femme qui s'assume, qui sait ce qu'elle veut, comment elle le veut.
Qui s'assume financièrement, tout. Sexuellement, tout.
Tout.
Et comment on s'assume en tant que femme libre sexuellement?
Bah, je pense qu'on...
Donnez-moi un conseil.
Oh, j'aimerais bien. On essaye, voilà, on essaye.
Mais on essaye quoi?
On essaye les choses qu'on a envie d'essayer. Sans...
On ose,
ouais.
C'est ça?
On ose.
Mais c'est pas toujours simple?
Non, c'est pas toujours simple. Et puis.
On a peur de quoi alors?
Du regard des gens, je pense. Du retour aussi, comment on va être reçu si on s'aventure.
Oui, par exemple, si on vit une vie de femme libre, avec peut-être plusieurs amants, tout ça, on peut avoir peur de
la
réaction de son entourage.
Je pense que c'est ça qui retient beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs, c'est le regard des autres.
Et vous faites quoi avec le regard des autres alors?
J'essaye de m'en accommoder, mais c'est très dur parce que j'ai un vrai problème avec le jugement, moi. Donc j'essaye de rester libre malgré tout ça.
Mmh. Mmh. Et vous savez pourquoi vous avez peur du regard des autres? Est-ce que vous avez un petit peu avancé ou...
Sûrement parce que moi-même, je peux avoir un regard
exigeant.
Ouais.
Et par rapport à l'autre, votre partenaire ou que ce soit d'une nuit ou d'une vie, hein, vous mettez aussi la barre assez haut, vous êtes très exigeante?
Non, j'essaie de moins l'être.
Donc vous l'avez été?
Ouais, bien sûr, je l'ai été, mais comme je pense tout jeune adulte, on ne sait pas comment ça fonctionne. Mm-hmm. Et du coup, on attend beaucoup de l'autre. Mais là, ça fait quelques temps que je me rends compte que, en fait, plus on laisse libre et plus on est des individus à part, mieux on se porte entre nous, quoi.
Il se dégage beaucoup, beaucoup de sensualité de vous. Vous en êtes consciente de ça?
C'est gentil.
Non, c'est sincère, c'est une femme qui vous le dit.
Oui,
hein,
moi,
donc,
ça fait toujours plaisir.
Mais vous en êtes consciente de cette sensualité qui se dégage?
Non, j'ai pas, c'est pas, moi, je me vois pas comme ça. J'ai pas de. Non. Je me vois pas encore.
Vous savez que vous plaisez aux hommes.
Je sais que je peux plaire, évidemment.
Que
je
vous
sais
pouvez, que vous plaisez.
Je sais que je. Ben, j'ai du mal à le dire, oui. Donc, ouais, c'est. Pour moi, c'est un personnage. Voilà. Je me mets dans la peau d'un personnage. Quand je décide de plaire, je le fais.
Et votre père, alors?
Il va bien. Et mon père, il va bien. Il est dans le sud de la France. Et puis, voilà, c'est. C'est un papa que j'ai pas beaucoup vu.
Mais... Justement, c'est bien pour ça que je pose la question.
Mais il va bien.
Peut-être qu'il vous a pas assez vu en petite fille mignonne et.
Ouais, là, on commence à se rapprocher maintenant. Je pense que c'est normal.
C'est chouette, ça. Ouais. Ça va certainement aussi vous aider à grandir.
Oui, hein. Je pense. Je pense.
Alors, vous connaissez un peu le principe de cette émission, peut-être?
On aide
les gens à aller mieux dans leur vie amoureuse, leur vie sexuelle. Alors, Jennifer, c'est Charline qui est avec nous, et qui a besoin de vos conseils. Bonjour, Charline.
Bonjour, Brigitte. Bonjour, Jennifer.
Bonjour.
Alors, dites-moi, Jennifer. Vu que Brigitte est malade, je me demandais peut-être que vous allez pouvoir m'aider. J'ai trompé mon homme il y a peu de temps et je ne sais pas ce que je dois faire, savoir si je dois lui dire ou pas, si je dois soulager ma conscience, si je dois le blesser, si je ne sais pas.
Vous l'avez trompé donc?
Oui.
Et ça fait longtemps que vous êtes ensemble?
Mon homme avec qui je suis depuis un an, pour une aventure qui ne se reproduira pas. Hein. C'est juste une passion ou un désir qui a été assouvi d'une connaissance. Donc, par le partage des sourires, des mots, des yeux, on sentait bien qu'il y avait quelque chose et... Et les choses ont fait qu'on s'est vus et que c'est allé plus loin que ce qui était prévu.
Alors moi je suis quelqu'un de très honnête, mais c'est peut-être pas bien parce que ça peut blesser. Mais après c'est assez égoïste.
Être honnête et fidèle, enfin oui.
Non mais c'est pas ça. C'est que quand ça peut m'arriver, moi je le dis tout de suite. Mais je suis pas sûre que ce soit bien quand c'est juste une histoire comme ça d'un soir.
Une aventure de passage, vous pensez qu'effectivement, vaut mieux préserver.
Ouais, peut-être.
D'accord, surtout, je l'aime passionnément et on s'aime très passionnément.
Bah alors, ne dites rien. Ne dites rien, mais après, voilà, c'est à vous.
Oui, je pense réussir à vivre avec ça. Donc, je pense réussir. Je me posais la question, est-ce qu'il valait mieux être honnête et me soulager et le blesser, puis quitte à gâcher notre histoire? Je pense que vous avez raison, finalement.
Bah, oui,
ouais, mais on a toujours besoin de. Entre femmes, en plus, de. de confirmation, de, on sait jamais vraiment, surtout dans ces positions-là. C'est vrai que je suis pour l'instant très mal à l'aise. Mm-hmm. C'est encore très récent, ça a quelques jours. Ouais, je vais réfléchir à quelques temps, mais je pense que d'avoir votre avis.
C'est peut-être d'aller en parler à quelqu'un d'autre pour se soulager, non? Parce que c'est ça,
ouais,
en fait.
Les amis, enfin, voilà. Mais...
Oh, les amis, ça, je suis pas sûre.
Oui, c'est
hein,
vrai
que faire,
les amis, on est
pas
j'aime autant.
Enfin, c'est une manière de savoir si c'est vraiment des amis.
Oui,
et je me dis que c'est ce que j'ai fait en vous parlant, donc c'est sûrement très bien, ça va. Je suis assez, j'étais déjà sur cet angle-là, donc je pense que, effectivement, vous avez raison et que je pourrais avancer
si c'est
comme
pas
ça
important,
et le garder pour moi.
Que, ouais.
Oui, complètement, oui. Ça n'a rien à voir
mais,
avec
mais vous,
dis,
Jennifer,
ouais.
si vous avez une infidélité, enfin une relation sexuelle comme ça un soir avec quelqu'un, vous le dites à votre partenaire
Oui, parce que je sais pourquoi je l'ai fait et je sais, j'ai toujours des raisons. Je fais pas les choses sur des coups de tête. Et donc, si je fais ça, c'est que j'ai une vraie raison de le faire. Ouais.
Et si lui, il fait pareil, vous préférez qu'il vous le dise?
C'est mieux. Mm-hmm. Mais j'ai beaucoup de mal, moi, avec l'infidélité. C'est alors qu'il faudrait que...
Non, pourquoi il faudrait...
Bah, parce que c'est, voilà, c'est normal, c'est humain, et j'arrive à comprendre que c'est quelque chose de complètement humain, et que j'y crois pas du tout à la fidélité. Mais par contre, c'est quelque chose qui me fait extrêmement mal.
Oui, vous êtes d'accord qu'on n'est pas naturellement fidèle, mais en même temps, et c'est une enquête récente, hein, 77% des gens considèrent qu'une infidélité met le couple en danger. Donc, vous voyez, vous êtes largement dans
bien
la norme.
Sûr, oui.
Vous considérez que c'est, en effet, ça met le couple en danger,
oui,
c'est ça?
Oui, oui, mais après, voilà, c'est vrai que c'est fait partie de notre éducation. On nous a inculqué ça. On reste avec ça toute sa vie. Après, en se disant, on ne peut pas avoir plusieurs personnes, on ne peut pas tromper. C'est, voilà. Mais en vrai, on a plusieurs amis, on peut aller manger avec plein de gens différents, on peut rire avec plein de gens différents.
On peut avoir plusieurs enfants et les aimer
voilà.
tout ce temps.
Et donc, cette
exclusivité sexuelle, oui.
C'est quelque chose qu'on nous a mis en tête. Et...
Pour vous, c'est culturel, c'est
pas. Ouais, complètement. Je pense que si demain on nous disait que c'était complètement normal et que c'était la vie, et voilà, les gens seraient beaucoup moins malheureux, ouais.
Mais vous avez raison, Jennifer Ayache. Beaucoup de choses dans notre façon de concevoir la sexualité sont plus culturelles que complètement innées.
Oui. Complètement, oui.
Et en même temps, c'est jamais anodin si on va voir ailleurs.
Mais en même temps, c'est pas anodin quand on va rire avec d'autres gens non plus. Enfin, c'est...
Ah oui, rire.
Pour moi, c'est la même chose, en fait. Manger, rire, avoir du sexe, c'est. Ça fait partie de la nature, enfin c'est les humains entre eux, quoi. Mmh, donc
vous croyez pas quand même qu'on s'investit un petit peu plus dans une relation sexuelle que dans un grand fou rire avec un homme, non?
Ah, je sais pas. Ça peut être aussi fort. Hein.
Et par exemple, Jennifer Ayache, si vous avez envie de vous confier à quelqu'un d'autre que votre compagnon, vous considérez aussi que c'est un peu une infidélité ou pas?
Des fois, ouais.
Donc vous êtes assez exclusive.
Je suis très exclusive. Oui. Je suis très exclusive, mais je ne veux pas l'être. Donc je fais le travail nécessaire pour essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau, le cœur, tout ça, parce que j'ai conscience. Mais après, c'est des ressentis qui sont là et que j'essaye de contrôler.
Bien sûr. Peut-être que vous aviez une relation assez fusionnelle avec votre mère, non?
Oui, complètement, toujours.
Oui, ouais, bien ouais. sûr. Oui. Ouais. Oui. Donc le tiers n'était pas là, quoi.
C'est ça. C'est ça.
Bon, bah, il faut mettre un peu de tiers dans...
Oui, bah, j'y travaille.
Vous y travaillez. Et comment vous faites alors? Comment vous y travaillez, Jennifer?
Bah, j'imagine que c'est en vivant les choses qui nous font peur ou qui nous font mal, ou tout ça, qu'on apprend. Donc, quand on est dans des situations où on n'a pas le choix, et c'est comme ça, et voilà, il nous arrive ça dans la vie, on se fait quitter ou on se fait tromper. Ou...
Ça vous est déjà arrivé d'être trompé?
Pas encore, mais je le sens arriver.
En tout cas, Charline, vous avez eu les conseils de Jennifer Ayache. Ça vous a aidé?
Oui,
vous
oui.
êtes convaincue?
Ben, sur certaines choses, je me rends compte qu'on est complètement différentes, mais sur d'autres, on se retrouve quand on est bien des femmes. Effectivement,
voilà.
On est tout ce qu'on ne veut pas être, c'est assez
ça.
Évident. Quoi. Merci en tout cas, Jennifer.
Merci à vous. Merci, Charline.
Oui, Jennifer Ayache, a priori, Charline a l'air de dire que les femmes seraient plus compliquées que les hommes. Vous confirmez? Vous pensez que les femmes sont plus compliquées?
Pas plus compliquées, mais beaucoup plus psychologiques, ouais, beaucoup plus cérébrales. Donc forcément, oui, ça complique certaines choses. Enfin, les hommes aussi ont des choses qui doivent pas les arranger non plus, donc on est vraiment très différents. Mais c'est vrai que oui, les femmes sont très cérébrales, donc
plus compliquées,
ouais.
Finalement,
ouais.
Vous aimez les hommes vraiment?
Ouais, je trouve que c'est essentiel, et puis oui, justement, c'est simple, quoi, un peu plus C'est rassurant, enfin c'est...
Par exemple, vous avez des amis hommes
Ah mais j'ai que ça.
Oui, c'est ça. Oui.
J'ai que ça. J'ai mon groupe, c'est, voilà, c'est ma famille, mes grands frères. J'ai beaucoup, oui, j'ai beaucoup de garçons autour de moi. Ouais.
Et puis j'imagine qu'ils doivent être très protecteurs, non?
Un
vous
peu.
Êtes, hein, vous avez...
Un peu, soit protecteurs, soit ils me considèrent même comme l'un des leurs. Donc...
Un petit côté garçon manqué
ouais,
chez
un
vous
peu, un petit peu. Je suis obligée dans mon groupe, je suis obligée.
Jennifer Ayache est avec nous et bien sûr si vous avez envie de lui poser une question vous pouvez nous appeler au 3216. On se retrouve dans un instant et on lui posera quelques petites questions un peu plus indiscrètes et je suis sûre qu'elle va se jouer. Mais si Jennifer Ayache, vous verrez, c'est un petit moment très agréable à passer. À tout de suite.
Retrouvez tout RMC sur rmc.fr.
Et un petit tour du côté de rmc.fr. Jennifer Ayache, cette question de Patricia. Bonjour, j'aurais voulu savoir si Jennifer, qui est une femme libre, on l'entend, serait prête à se marier ou pas. Alors le mariage, ça vous paraît une chose possible ou pas, Jennifer
non.
Ayache?
Moi, c'est pas quelque chose que j'envisage. J'ai l'impression que ça. Après, voilà, ça peut sceller un couple, j'imagine, mais moi, ça serait plutôt l'inverse. J'aurais l'impression d'être enfermée et de pas avoir le choix, et du coup, c'est...
Et si un homme vous fait une demande en mariage, vous avez l'impression que c'est vraiment une belle preuve d'amour?
Oui, ça par
touche,
contre, ouais.
Ça.
Je pense que c'est une vraie preuve d'amour. Maintenant, je sais pas si je serais prête, et ou en tout cas, si je trouve que c'est le bon chemin pour un couple. Mmh. Voilà. Pour garder un couple dans l'harmonie, la passion et les choses jolies, je sais pas si il faut pas.
Vous avez peur que ça crée une sorte comme ça de on s'appartient et on fait plus d'efforts.
Ouais,
quoi.
C'est ça.
Hein. Mm. Et peut-être que dans 20 ans quand même,
peut-être.
Ce serait envisageable.
Peut-être, ouais. Peut-être, je dis jamais, donc on verra. Mais là aujourd'hui, ouais, c'est ma façon de voir les choses. Ouais.
C'est une réaction assez fréquente chez les jeunes femmes d'aujourd'hui. Hein. C'est peut-être que les femmes ont tellement été mariées parce que c'était la seule solution pour survivre qu'aujourd'hui, il y a une sorte de rejet du mariage, non?
Peut-être, ou c'est... Ça manque... J'en sais rien, en fait. Ça manque peut-être de folie dans ma tête. Le mariage, je le vois comme mes parents n'ont jamais été mariés. On a l'impression de se ranger, d'avoir une vie... Moi, dès que ça devient trop normal, je... Comme les autres gens, en fait, c'est ça qui me dérange. J'ai besoin d'un peu de choses un peu hors normes. Ouais.
Toujours ce côté rockeuse. Hein,
je sais pas ce que c'est.
RMC, La Haye, L'Amour et Vous, Brigitte La Haye et Jennifer Ayache.
Strong and beautiful. Et d'ailleurs, je trouve que ces deux mots, strong and beautiful, hein, qui veut dire fort et beau, hein, ou forte et belle, ça vous correspond finalement assez bien. Parce que sous une apparence, en effet, vulnérable, un peu, une sensibilité un peu exacerbée, etc., j'ai quand même l'impression qu'il y a une force chez vous qui.
Je
me
pense.
Semble.
Bon, voilà, oui. Et puis, c'est cette chanson qui vient de sortir aussi, c'est ça, c'est que. De temps en temps dans la vie on traverse des périodes un peu moins simples et un peu plus voilà dans des avec beaucoup de doutes et de remise en question, et cette chanson elle est sortie de là, et c'est un besoin de se rassurer, de se sentir fort, bien, positif, de se dire qu'on va y arriver, que voilà, donc ouais, c'est une chanson d'automotivation.
Faut croire en soi,
oui.
Mais c'est assez contraire avec notre époque. Justement, Jennifer Ayache, tout le monde se fait des selfies, tout le monde se dévoile. Oui,
j'en fais aussi. Mais je trouve que justement, voilà, on est arrivé au bout. On sait que les filles, elles peuvent se mettre toutes nues sur les réseaux sociaux et qu'on voit leurs seins et c'est super. Mais quoi? Et voilà. Et alors, il n'y a pas de. Il faut qu'on ait quand même une part de mystère et quelque chose que, voilà, qui peut encore faire rêver un petit peu et faire travailler le...
Est-ce que ça s'appelle pas tout simplement de la pudeur, non?
De la pudeur aussi, beaucoup. Mais j'aime bien être pudique. Je trouve
mais je pense que c'est une qualité d'être pudique, justement.
Oui. Après, ça ne veut pas dire que mon imaginaire ne travaille pas. Au contraire, c'est
justement au contraire, parce que vous avez certainement beaucoup de choses en vous, que vous avez besoin de mettre une petite protection.
Oui.
Mais au fond, vous êtes une rockeuse très loin de Madonna.
Bah dans les faits, sûrement. Après, dans ma tête, je pense que je vais beaucoup plus loin que Madonna. Mais je suis très très dans le cerveau, moi.
Très cérébrale.
Ouais, vraiment. Mmh.
Très cérébrale. Donc, vous avez beaucoup de fantasmes. Vous imaginez beaucoup de choses. Mmh. Alors, je vais vous poser quelques petites questions indiscrètes, et puis vous me direz comment vous avez peur. Oh, je vais pas me dire que vous avez peur de moi, quand même. Alors. Justement, vous seriez plutôt dominatrice ou soumise, s'il fallait choisir? Est-ce que vous mettez les menottes ou vous préférez qu'on vous les mette?
Je pense que je préfère qu'on me les mette.
Est-ce que vous auriez pu, en tant que femme, être payée sexuellement?
Non.
C'est quelque chose qui serait impossible pour vous?
Il faut
qu'il y ait des sentiments, obligatoirement?
Complètement, impossible.
On ne se vend pas?
Non. Et puis, ou alors c'est un jeu et puis tout le monde est consentant et c'est marrant, mais...
Et vous comprenez qu'on puisse le faire?
Bien sûr, je comprends qu'on puisse le faire.
Non, mais on peut ne pas juger, bien sûr, bien mais sûr. En même temps ne pas comprendre.
Moi je comprends tout, hein, par contre.
Vous comprenez tout? Oui, parce que vous avez suffisamment de cérébralité pour tout comprendre.
Je comprends maintenant, voilà.
Oui, après tout.
C'est la vie.
C'est la vie, voilà, oui. Donc finalement, la morale, c'est pas trop votre histoire? Vous seriez plutôt un petit peu amoral?
Oui, je pense. Mmh. Je pense que voilà, quand je décide de faire les choses ou de quand je le décide, je le fais et puis j'écoute pas souvent ma raison.
Mmh. Et vous êtes assez peu choquée par des comportements, je sais pas moi par exemple, si quelqu'un vous disait je suis libertin, je suis trans, tout ça,
Ah pas du tout, ça me fait rien du tout. Je trouve que c'est normal. Enfin c'est normal. C'est chacun a ses fantasmes, chacun a ses besoins et ils sont tous différents. On peut s'en moquer, on peut juger, on peut tout ça, mais en tout cas moi ça me choque pas du tout.
Alors toujours mes petites questions indiscrètes, hein, Juliette, Jennifer. Oh, pourquoi je vous appelle Juliette?
Pas, appelez-moi Juliette. Si
non, Jennifer Ariage. Vous auriez le choix d'un jouet intime. Vous prenez plutôt un rabbit ou des boules de geisha? J'ai utilisé le conditionnel. Hein. Je vous ai pas demandé d'utiliser obligatoirement.
Je prendrais un gobelet en plastique.
Ah, d'accord. Et vous en feriez quoi de ce gobelet en plastique?
Je vous laisse imaginer.
Ah non, j'ai compris. Vous buriez
l'eau
qu'il y a dans le gobelet pour après le recracher sur scène, c'est
voilà,
ça?
Voilà, exactement. Non, c'est ça.
Vous préféreriez un homme plutôt tendre ou plutôt viril?
Viril.
Viril? Mm-hmm. Qui vous met les menottes.
Si vous voulez.
Moi je veux pas spécialement, Jennifer. Donc votre Roméo, pour revenir à Juliette, donc plutôt viril.
Viril, ouais. Ouais. Je trouve ça beaucoup plus sexy.
J'ai cru comprendre que ce serait plutôt Brad Pitt, c'est ça?
Oui, j'aime bien Brad Pitt, mais je pense que je suis pas la seule. Quoi.
Non, je suis d'accord, il y a de la concurrence. Et puis, on va vous poser une autre question. Est-ce que vous avez déjà réalisé certains fantasmes, j'imagine? Et est-ce que vous en avez encore beaucoup? Est-ce que vous avez capacité à renouveler vos fantasmes en tant que grande cérébrale?
Tout le temps.
Tout le temps?
Mmh. J'ai besoin d'être très très proche des gens pour me livrer.
Oui, bien, j'ai bien compris, voilà. mais me sens très proche de vous.
On est très proche, c'est vrai.
Jennifer Ariage.
Il faut être un peu plus proche que ça. Oui. Vraiment, j'ai vraiment...
Vous avez peur qu'il y ait quelqu'un qui écoute, on ne sait jamais.
On ne sait jamais. Non, mais même, je trouve que c'est pas moi.
C'est très impudique, finalement, de raconter.
Ouais. Et puis même, j'aime pas en parler, en fait. Je trouve que...
C'est mieux de le faire.
Ouais.
Plutôt dans le noir ou en pleine lumière?
Entre les deux.
Avec un peu de bougie, de musique.
Oui, enfin, ou pas, enfin, ça dépend. Mmh, mmh. Des fois, on réfléchit pas, on fait.
C'est pas que vous soyez coincé, hein, c'est que vous êtes très pudique, en fait.
Oui,
hein, c'est ça.
C'est ça, parce qu'on est quand même à la radio et que j'ai envie de garder certaines choses pour moi, je trouve que c'est plus joli.
Bah, en même temps, vous connaissez le principe de cette émission.
Bien sûr,
vous veniez quand même.
Bien sûr.
Mais c'est gentil en tout cas de
Merci.
Jennifer Aliash. Strong and Beautiful. Moi j'ai beaucoup aimé, a priori, pourtant c'était pas forcément ma musique, mais j'étais très très sensible à votre voix et au texte aussi qu'on écoute et qui finalement sont très proches de ce que vous êtes, il me semble.
Merci, ouais.
Tout de suite, bien sûr, c'est Vincent Moscato que vous retrouvez pour le Super Moscato Show. Et demain, c'est Sinclair qui sera avec nous. Et nous aurons également Thérèse Argot qui sera avec nous. Et on évoquera la libération sexuelle. Est-ce qu'elle a eu lieu ou pas? On en parlera demain.
Sur RMC, ne ratez rien de l'AL Amour et vous. En podcast avec l'appli RMC et sur rmc.fr.